Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit.
Va te faire cuire un mammouth, histoire de la domestication du feu, avec une petite teinte belliqueuse quand il s'agit de la guerre du feu, selon le titre du film de Jean-Jacques Hano en 1981, mais dont l'étincelle est plus ancienne, 1909, avec le roman de René Aîné. Les Oulram fuyaient dans la nuit épouvantable, fous de souffrance et de fatigue. Tout leur semblait vain devant la calamité suprême. Le feu était mort. Il les levait dans trois cages depuis l'origine de la Horde. Quatre femmes et deux gardiens le nourrissaient nuit et jour. L'archéologie et l'histoire s'enflamment.
Ça, c'est pour faire du feu. Si on veut faire du feu, c'est des brindilles. On fait du feu avec, comme les anciens historiques, mais eux, ils faisaient pas avec des bois. Eux, ils faisaient avec des...
Alors, comment ? Invention du feu ? Non, le feu serait certainement... est un phénomène naturel dont les sources étaient multiples.
Regarde, ils sont très très chauds ce soir.
Ce soir on découvre le feu.
Je te rassure tout de suite, ils promettent ça à chaque fois, mais ils le font jamais.
Et pourtant, le feu est là. Bonjour Isabelle Théry-Parisot.
Bonjour.
Bonjour Camille Dojard.
Bonjour.
Alors la question que tout le monde se pose, où en sommes-nous sur la maîtrise de la domestication du feu? Je vous pose la première question. Allez, sur le où? En quel lieu? Est-ce que aujourd'hui on arrive à préciser à quel endroit sur notre planète le feu a été domestiqué pour la première fois? Isabelle Théry-Parisot.
Alors, c'est une bonne question parce que je pense qu'on peut pas y répondre. Voilà. La principale raison, c'est que on n'a pas encore découvert toutes les traces qui existent du feu. Et puis la question de la domestication, c'est une question qui sous-tend des notions qui sont distinctes de celles de la présence du feu, des traces du feu. Alors les traces de feu associées à des homininés, il y en a depuis environ 1,5 million, on va dire, en Afrique de l'Est. Mais on ne sait pas si ce sont juste des incendies qui sont passés sur les sites, ou si c'était vraiment du feu maîtrisé par les hommes.
Camille Dojard, un élément de réponse sur ce « où ». Non mais on entend bien que c'est difficile, mais l'absence de réponse est déjà une très belle réponse.
Ah oui, tout à fait. C'est vrai que les plus anciennes occurrences, comme disait Isabelle, c'est en Afrique de l'Est, à 1,5 million d'années. Après, on en a aussi dans les grottes d'Afrique du Sud, autour de 1 million d'années. Toujours la même question. Est-ce que ce sont des feux qui sont maîtrisés, ou est-ce que ce sont des feux récupérés dans la nature ? Les incendies naturels, la foudre. En Afrique de l'Est, ça pouvait être les volcans. Mais aux mêmes dates, en Afrique du Nord, par exemple, on a des sites où on n'a absolument pas d'indices de feu. Donc c'est plus tard en Europe, autour de 400, 300 000 ans, qu'on va vraiment avoir des témoignages plus fréquents.
Qu'est-ce qui fait dire aux chercheuses que vous êtes, là, ici, c'est un feu maîtrisé par l'homme. Ce n'est pas un feu qui a été capté dans la nature parce que la foudre a enflammé un arbre.
On va dire que c'est la récurrence. C'est le fait que on voit le feu dans quasiment tous les sites archéologiques à partir d'un moment, ce qui nous fait penser qu'ils maîtrisaient la fabrication du feu. Voilà. Alors que des usages plus sporadiques laissent penser que c'était plutôt on ramassait le feu à l'occasion d'un incendie naturel. Voilà. Et effectivement, on peut dire que à partir de 300, 350 000, on a beaucoup de sites avec même des structures de foyers qui sont clairement identifiées. Alors, ils conservaient le feu, mais est-ce qu'ils le maîtrisaient à cette époque-là ? Ça, c'est une autre question.
On voit les questions qui s'empilent ici. Comment faire du feu ? Le récupérer dans la nature ou le fabriquer soi-même ? Le conserver ? Qu'est-ce que c'est que ce feu? Qu'est-ce que cette chose-là? Avec toute cette question, et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Camille Dojard, l'absence de feu aussi est un indicateur, parce que ce n'est pas tout de chercher les endroits où il y a du feu. On peut aussi réfléchir sur là où il n'y a pas de feu, ou peut-être là où il y a eu du feu, puis après il n'y en avait plus, puis après il revient.
Oui, tout à fait. Il y a une période d'ailleurs qu'on appelle le paléolithique moyen avec les hommes de Néandertal en Europe, où on a certains sites où on n'a aucune présence de feu, alors que d'autres très proches, par exemple dans la vallée du Rhône, entre vallée du Rhône et massif central, on pourrait s'attendre à ce que dans le massif central, en altitude, on a du rhinocéros laineux dans certains sites et des périodes froides. Et pour autant, c'est dans la vallée du Rhône, plus bas, qu'on va avoir des indices de feu, et pas dans la montagne. Donc ça pose la question de, est-ce qu'ils le maîtrisaient? Est-ce que des groupes humains différents, certains le maîtrisaient, d'autres non? Est-ce que ce sont des traditions culturelles? Est-ce qu'on en avait besoin tout le temps? Ce sont quand même des nomades. Ça dépend de la fonction des sites. Donc, on ne sait pas trop, des fois.
C'est-à-dire à des moments où il fait très froid, la glaciation couvre l'ensemble de tous ces territoires, mais ça ne veut pas dire qu'il y a obligatoirement du feu.
Non.
Ah, c'est paradoxal.
Il faut quand même garder en tête que la plus grande partie de notre évolution humaine, les groupes humains se sont passés de feu. Vraiment la large partie de la préhistoire.
Et puis, vous l'avez évoqué, il y a le côté sédentaire et nomade aussi qui est très important. Mais est-ce que cette notion de sédentaire et nomade veut dire quelque chose au sens où on n'est peut-être pas sédentaire tout le temps, bien sûr, mais on n'est peut-être pas nomade tout le temps non plus? Il y a cet entre-deux qu'il faut mettre en ligne de compte.
Oui, alors déjà le nomadisme a une conséquence directe sur la façon d'utiliser le feu, c'est que on ne peut pas stocker le bois. Or, pour faire du feu, il faut utiliser du bois sec. Donc on pense que tant que les hommes étaient nomades, ou en tout cas semi-nomades, ils ramassaient le bois qui était mort dans l'environnement. Donc il y avait une façon d'être un peu opportuniste. Ce bois qui était ramassé, il était déjà coupé, donc il n'y avait pas besoin de technique. Il était déjà sec et donc il était utilisable immédiatement. À partir du moment où les sociétés s'installent de manière plus durable, on voit apparaître une façon plus raisonnée de gérer le feu, une diversification des activités. Et on pense effectivement que cette transition qui s'est faite à différentes étapes vers la sédentarisation a eu des conséquences directes sur la façon de gérer le feu.
C'est-à-dire qu'on peut pas, et c'est pareil pour l'agriculture j'imagine, dire à tel endroit, à tel moment, il y a eu la maîtrise du feu, et puis après ça s'est répandu parce que certains ont expliqué à d'autres comment ça se passait, ça se conçoit pas comme ça.
Ah ben c'était, y avait pas WhatsApp, donc ce dont on est sûr, c'est que le feu et son usage est apparu à différents endroits, et à des périodes distinctes, sans contact entre les populations.
Ouais, ça c'est la certitude.
C'est une grande question toujours. Est-ce que c'est des convergences d'innovations techniques dans l'évolution humaine ou est-ce que ce sont des diffusions?
Ouais.
Et là, il faut quand même une sacrée densité humaine pour que ça puisse se diffuser, les techniques. Donc le feu, pour le coup, c'est plutôt une invention autour de 300-400 000 ans, qui serait plutôt du fait de convergence.
Donc, vous avez répondu déjà à ces deux questions qui taraudent tout le monde. C'est le où, c'est un peu partout. Et le quand, c'est autour de 400 000 ans. Avec vraiment, et dans l'étude que l'on peut faire, l'Afrique, qui est incontournable ici dans cette histoire-là. Le feu maîtrisé en Afrique, en Europe aussi. On voit une évolution de l'utilisation du feu qui arrive à se dégager. Est-ce qu'il est possible, dans cette étude, de cerner des périodes?
Oui, alors... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à partir de 100 000, on voit du feu partout. Ouais, ça, c'est sûr. Et puis, ce qu'on voit apparaître plutôt avec Homo sapiens en Europe, c'est une diversification des activités qui sont liées au feu et qui laissent des traces directes, qui sont par exemple la façon d'utiliser le feu pour transformer la matière. Fabriquer des cols, des résines, ou bien à la grotte Chauvet, par exemple, où les hommes ont utilisé le charbon de bois qui provenait directement du feu pour réaliser les grandes peintures noires. Donc vraiment, je pense qu'on peut quand même distinguer ce qui se passe avant Sapiens et avant ça, et à l'époque de Néandertal, pardon.
Oui, parce que c'est Néandertal aussi qui est notre héros aujourd'hui. Camille Dojard, vous êtes archéozoologue, chercheuse au CNRS. D'ailleurs, on peut préciser ce métier, archéozoologue, ça veut dire ?
C'est spécialiste des relations entre les humains et les animaux, en fait, dans la dans l'archéologie en général.
Oui, et puis les animaux ont un lien très net avec notre histoire de la domestication du feu dans la réflexion que l'on va avoir sur la cuisson peut-être, mais aussi sur l'utilisation des ossements pour faire du feu. Juste, on a évoqué Néandertal. C'est lui qui est confronté particulièrement au froid. Son utilisation du feu n'est pas la même que Sapiens, c'est-à-dire nous.
Les Néandertaliens et les Néandertaliennes ont connu différents climats. Hein. Ils ont connu des périodes tempérées comme la nôtre, mais aussi des périodes glaciaires, en effet. Et c'est effectivement avec Néandertal qu'on va voir la densité de la maîtrise du feu se répandre. Ils vont être les premiers à, justement, grâce au feu, pouvoir en fait s'introduire dans les milieux souterrains. Par exemple, on parlait de la grotte Chauvet, mais déjà avant, avec les Néandertaliens, on a par exemple le site de Bruniquel où on va avoir loin dans les salles obscures, loin de la lumière du jour, des groupes humains, des Néandertaliens et des Néandertaliennes qui sont allés profondément faire des structures en stalagmites. Et il fallait, là, le feu, il fallait la lumière. Donc déjà, ils maîtrisaient ça. Mais c'est vrai qu'il va y avoir des évolutions, comme disait Isabelle, dans les techniques. On va avoir les premières lampes, par exemple, qui vont éclairer. C'est seulement à la fin du paléolithique supérieur avec Homo sapiens.
Isabelle Thierry Parizeau, vous êtes archéobotaniste, directrice de recherche au CNRS, archéobotaniste. Donc ça, c'est quoi les relations entre l'humain et
le végétal, exactement.
Ouais. C'est bien, vous deux, on couvre la faune et la flore. Ouais. Avec ici, en fait, énormément d'hypothèses et de bon sens. Quand on réfléchit à l'histoire du feu, on l'a dit, hein, c'est quoi la chaleur, la lumière, la cuisson. Enfin, ouais. C'est vraiment se rapporter à ce que l'imagination et nos connaissances peuvent nous faire comprendre de ce passé lointain.
Oui, éloigner les animaux, fumer la viande et le poisson pour la conserver, fabriquer fabriquer des résines, des ocres. Il y avait beaucoup d'activités hein, qui étaient liées au feu. Et puis, tous les aspects symboliques qu'on maîtrise absolument pas. Et évidemment, dans l'imaginaire hein, des sociétés, le feu a toujours joué un rôle très particulier, même pour les préhistoriens. Il exerce une fascination. Et peut-être même de manière paradoxale, c'est ce qu'on connaît le moins bien de la préhistoire, je dirais. Mmh.
Pour les préhistoriens, il exerce une fascination avec, là aussi, peut-être une chronologie à donner au sens où il intéresse aujourd'hui préhistoriens, préhistoriennes, soit. Est-ce qu'il a toujours intéressé, au moment des fouilles, à la recherche d'une Vénus magnifique, est-ce qu'on s'arrêtait quand c'était un peu plus noir? C'était du charbon.
Non, en effet, ouais, c'est vraiment quand on a commencé à s'intéresser au sol d'habitat, en fait, la seconde partie du XXe siècle, par exemple, avec les travaux de Leroy Gourhan, qui commence à s'intéresser à ce qu'on appelle la paléthnologie, donc c'est-à-dire les comportements, les habitats. Avant, on s'intéressait beaucoup à la stratigraphie, aux datations, aux périodes. Et là, on va commencer à essayer de comprendre les comportements au sein même des habitats archéologiques. Et là, on va fouiller de façon minutieuse, récupérer tout ce qu'il faut récupérer, parce qu'effectivement, le feu, ça laisse peu de traces. Bah, ça, Isabelle, elle connaît bien. Et donc, c'est quand on va commencer ces fouilles systématiques, en carroyage, organisées, qu'on va récupérer tous ces témoignages et on va pouvoir s'intéresser au feu et à le voir même, à le reconnaître.
Et qu'est-ce que ça laisse comme trace, le feu?
Alors, des résidus, des charbons de bois principalement, des ossements brûlés, des silex brûlés, un certain nombre d'artefacts qui présentent des traces d'altération thermique.
Le charbon, je vois bien. Les os brûlés, j'imagine. Mais alors, le silex brûlé, là, je peine. Au sens où, moi, dans mon imaginaire, le silex sert à allumer le feu. Hein. On a toujours tous tapé deux silex. On n'a jamais réussi. Avoir une étincelle, on n'y arrive pas déjà. Mais pourquoi des silex au feu?
Non, c'était... disons que parfois, il n'y a pas de charbon de bois. Parfois, il n'y a pas d'ossements brûlés. Mais il y a des silex qui sont brûlés. Donc, on sait que... Ils ont été soit accidentellement mis au feu, ou bien même on a utilisé le feu pour préparer le silex, ce qui existe aussi, pour faciliter la fabrication des outils.
Ah oui, on fait chauffer la pierre?
Ouais, c'est arrivé, ouais, pour faire exploser des gros blocs, par exemple, de silex qu'on mettait à proximité du feu, et ça favorisait l'éclatement du nucléus.
Mais là, c'est difficile aussi, au moment de chercher, de savoir si c'est une pierre qui a servi à faire le foyer, oui, ou alors si c'est une pierre qui a été placée là pour être éclatée. Si, parce qu'on se dit, si c'est un silex, c'est pas là par hasard, c'est comme ça, la déduction?
Oui, puis il y a les traces, les couleurs sur le silex, effectivement. Et c'est vrai que le silex, deux silex ensemble, ne peuvent pas faire du feu. C'est juste pour dire, il faut un minerai de fer, pyrite, marcassite, avec du silex pour faire une étincelle, comme on l'appelle, chaude, contrairement à l'étincelle froide. C'est pour ça que vous y arriviez pas quand vous étiez petit.
Ah, c'est ça. Donc, faut pas deux silex, faut du silex.
Et un minerai de fer.
Faut toujours des archéologues avec nous.
Samara est un domaine de 30 hectares niché au pied de l'oppidum de la chaussée de Tirancourt. Ce lieu privilégié propose un voyage au cœur de la préhistoire dans l'environnement naturel et mystérieux de la vallée de la Somme.
On fait les étincelles sur le champignon.
Sur les chantiers de fouilles, nous retrouvons des marcassites. Donc ces minerais de fer qui contiennent du soufre. Elles se sont conservées avec le temps, donc ça permet aux archéologues de retrouver ces matériaux qui ont servi à fabriquer du feu. De plus, les silex qui servent à taper sur cette marcassite pour produire les étincelles contiennent quelques traces de marcassite hein, qui sont conservées et avec des moyens modernes qu'on appelle la tracéologie. Ça permet de retrouver ces traces.
Tout m'a plu dans cette visite.
Qu'est-ce que tu as aimé ?
Le feu. Il suffit de taper deux cailloux.
Voilà, il suffit de taper deux cailloux, mais non, en fait, il faut du minerai. Alors là aussi, très très intéressant hein, de voir comment, par déduction et puis accumulation de connaissances, et l'archéologie, surtout sur ces périodes-là, c'est ça, c'est les comparaisons de l'accumulation de connaissances. Donc c'est ça, il faut un peu de minerai et un silex. Et là, on arrive à faire une étincelle chaude.
Oui, alors en fait, il faut le frotter au-dessus de... Bon. Aujourd'hui, on utilise de l'amadou, hein, ce champignon qui est très sec et très poudreux. Et donc, en percutant la pyrite et marcassite et le silex, on produit une étincelle et qui commence à enflammer l'amadou, qu'on met ensuite dans un combustible qui va s'enflammer plus facilement, comme les herbacées, par exemple, très sèches. Et puis ensuite, on allume le feu avec ça.
On fait ça, ça veut dire que ça peut se déplacer. C'est un briquet. Hein.
Oui, c'est un briquet. Exactement, on appelle ça les briquets, hein, d'ailleurs.
Ah, c'est le nom que l'on donne à ça.
C'est le nom.
Donc, nomade, on peut avoir avec soi ce minerai et ce silex.
Absolument, on peut tout à fait, oui.
Tout à fait. Puis, si on n'en a pas, on peut aussi frictionner deux morceaux de bois l'un contre l'autre.
Ouais.
Avec, comme, et pareil, l'amadou ou de la paille sèche pour mettre le feu.
Mais ça laisse pas de traces pour l'archéologue. En tout cas, est-ce que il est là, il y a deux petites moues un peu.
Bah, c'est-à-dire que le bois se conserve pas. Le bois ne se conserve que s'il est carbonisé ou bien s'il est conservé sous l'eau, par exemple. Donc ces éléments-là, on en a pas.
Mais donc énormément de déductions autour de ça. Qu'est-ce qui reste en fait ? Donc on l'a bien dit, il y a le charbon.
Oui.
Est-ce que ça nous dit quelque chose, le charbon en soi ? J'imagine il y a la taille du foyer, il y a les analyses faites autour de ce charbon.
Alors, le charbon de bois, c'est incroyable le nombre d'informations qu'on peut tirer d'un tout petit fragment d'un ou deux millimètres de charbon de bois. D'abord, on peut dater l'occupation. Ensuite, on peut identifier les espèces de bois qui ont été utilisées comme combustible. Et à partir de cette identification, on peut proposer une signature écologique et climatique, puisque les espèces vivent dans des conditions climatiques qui sont assez définies, qui sont déterminées par l'espèce elle-même, en fait. On peut aussi faire des analyses chimiques qui donne d'autres informations sur le climat. On peut mesurer les cernes pour voir quel était le rythme de croissance des arbres. Voilà, donc ça donne déjà beaucoup d'informations sur l'environnement et sur les conditions climatiques des sociétés. Alors après, ce qu'on fait en complément pour étudier les foyers, on peut toujours s'intéresser à la notion d'espèces. Quelles sont les espèces qui ont été utilisées comme combustible et pourquoi? Mon hypothèse, c'est que, en tout cas, c'est pas comme ça que pensaient les sociétés. Ils pensaient pas en termes d'espèces, évidemment, puisque la notion d'espèce apparaît inclinée, mais que ils avaient des catégories de bois, d'espèces qui étaient utilisées soit pour la construction, soit pour le bois de feu, qui peuvent être pour le bois de feu. On peut penser qu'en fait, tout ce qui était sec et mort, c'était du bois de feu.
Oui, parce qu'on peut tout brûler du moment que ça brûle. Mais j'imagine une grande connaissance aussi de savoir quel bois va plutôt chauffer, quel bois va plutôt éclairer, quel bois va plutôt fumer.
Alors, ça dépend pas de l'espèce. Ça dépend de la taille de la bûche, ça dépend de son taux d'humidité, ça dépend de son état sanitaire. Voilà, vous le savez intuitivement, en fait, si vous voulez allumer du feu, vous prenez du bois de faible calibre. quelle que soit l'espèce, ça ne vous intéresse pas de savoir de quelle espèce il s'agit. Donc, faire des flammes, c'est utiliser du bois de faible calibre, par exemple. Faire de la fumée, il faut utiliser du bois qui est un peu vert. Voilà.
Avec un peu de mousse autour, c'est beaucoup mieux. Et après, c'est réfléchir à l'utilisation, au pourquoi de faire ça. Utiliser du bois pour faire du feu, peut-être pas seulement du bois.
Alors ça, oui, effectivement, pour reparler de ce que je connais, du coup, les restes animaux, ils peuvent aussi donner des indications, pas dans l'allumage, mais ça, Isabelle connaît bien, parce qu'elles ont fait des expérimentations avec des collègues qui ont montré qu'on pouvait, en fait, entretenir de l'os avec, du feu avec justement de l'os et ces parties spongieuses de la carcasse qui sont un peu pleines de graisse et qui permettent d'entretenir, c'est bien ça, Isabelle, hein,
ouais.
Mais pas d'allumer un feu. Donc c'est vrai qu'à certaines périodes de la préhistoire, peut-être que ça a dû avoir son importance quand il y avait peut-être peu de végétaux ou qu'on avait ces carcasses qu'on rapportait pour manger la viande et on pouvait se servir de tout dans la carcasse, et y compris des ossements pour entretenir le feu.
C'est quoi cette expérience ?
Oui, alors en fait, on trouve beaucoup d'os brûlés dans certains sites, associés au foyer. Et donc, la question qui se posait, c'était est-ce que l'os était utilisé comme combustible ? Et pourquoi ? Donc, avec Sandrine Costamagno, ma collègue archéozoologue, on a mené un certain nombre d'expérimentations. Donc, on a fait brûler des os d'animaux, des os longs, des extrémités. Et on a pu montrer que, en fait, seules les extrémités, qui sont les parties spongieuses et qui contiennent beaucoup de graisse, sont combustibles. Mais en fait, c'est pas l'os qui est combustible, c'est la graisse. Et que ça favorise la production de flammes. Voilà, donc ce combustible peut être utilisé pour l'éclairage, enfin toutes les activités qui nécessitent la production de flammes. Mais on ne va pas cuire un steak avec de l'os brûlé, par exemple, parce que la combustion, elle est beaucoup plus, elle est beaucoup plus rapide.
Eh oui, c'est ça, parce que ici on a l'utilisation alors des os et plutôt de la graisse. J'entends bien que c'est de la graisse qui va alimenter le feu. C'est pas ça qui l'allume. Vous avez essayé d'en allumer des feux avec le silex et un peu de minerai
et de l'os?
Ah non, avec l'os ça se fait aussi.
On peut... Non.
Ah non. Non. Avec vraiment allumer. Alors soit en frottant les deux bâtons. On a tous regardé Koh-Lanta.
Oui.
On sait bien que c'est difficile de le faire.
Est-ce que je dois avouer que je ne sais pas le faire?
Donc on va pas allumer le feu avec vous. Mais dans cette utilisation du feu, on a tant et tant d'usages, on l'a bien dit. Et parmi ces usages, il y a l'éclairage. Le feu, c'est ça, hein, ça apporte de la lumière. J'imagine que la graisse, et notamment la graisse enroulée au bout d'un bâton, c'est formidable parce que ça devient une torche au moment de visiter la caverne.
L'espace où il plonge est d'autant plus ténébreux que le corps du visiteur obstrue le seul accès à l'air libre. Une fois à l'intérieur, même s'il attend que ses yeux s'accommodent à l'obscurité, il ne verra jamais qu'une vague lueur, peut-être même l'imaginera-t-il, le négatif du nombre signalant tout juste et seulement dans son immédiate proximité l'ouverture. Un clapotis régulier lape les flancs de la grotte. De temps à autre, un silence se pose, comme un grand oiseau de nuit, dans le froissement tiède de ses ailes repliées, et une goutte lointaine tombe, comme un pleur, sur le disque étal du lac. La nuit attend. L'homme s'abandonne, dénoué. Il étend lentement son corps sur l'eau et se laisse porter comme par le sommeil. Il ne dort ni ne rêve.
L'écrivain Jacques Abeille, qui dans les Nuits Magnétiques sur France Culture réfléchissait à vivre dans la roche avec, l'évidence de la torche enflammée qui permet de visiter des lieux demeurés sombres. Alors, là, c'est toujours aussi de l'hypothèse, de découvrir ce que c'est ces lieux-là, c'est du mythe, c'est de la réflexion. Après, il y a le concret, il y a les traces laissées. Est-ce que l'on a des traces de feu dans ces grottes, de torches, de choses comme ça qui seraient restées ?
Ah oui. Alors, à la grotte Chauvet en particulier, il y a ce qu'on appelle des mouchages de torches sur tout le parcours de la cavité. Donc, des traces noires qui sont laissées à hauteur d'homme par les torches qui ont été frottées pour raviver la flamme.
D'accord, donc on a ça. Mais ces grottes étaient occupées, bien souvent, non pas par des humains, mais par des grosses bestioles, plus ou moins sympathiques. Là aussi, le feu a son utilité pour chasser les animaux.
Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de l'entrée dans le monde souterrain par les groupes de Néandertaliens et de Néandertaliennes. Les cavernes, à l'époque, étaient effectivement occupées une partie de l'année par des grands carnivores. Par exemple, les ours des cavernes, qui portent bien leur nom, qui hivernaient pendant toute une partie de l'année. Il y avait des hyènes des cavernes également, les lions des cavernes. Donc en fait, le monde souterrain devait représenter quelque chose de dangereux. Et l'accès au feu, c'est une hypothèse, on va dire, à forte probabilité, a très certainement permis à ces hommes et à ces femmes de s'aventurer. Et c'est ce qu'on en a quelques traces, effectivement, déjà dès l'époque du paléolithique moyen, anciennement.
C'est-à-dire paléolithique moyen.
170 000 ans à Bruniquel, comme on disait tout à l'heure. Le paléolithique moyen, c'est entre 300 000 et 40 000 ans à peu près. Voilà.
Déjà, on a ces traces-là. Et puis, hypothèse à haute probabilité aussi, le feu, mais même à l'extérieur de la grotte ou n'importe où, permet de veiller plus tard.
Oui, tout à fait. C'est aussi un facteur, c'est du bon sens, vous disiez tout à l'heure, de sociabilisation. Et il est très probable que le fait qu'on puisse s'éclairer, ça élargit en fait la durée de la journée. On peut se regrouper autour d'un feu, on peut partager de la nourriture, mais on peut aussi partager des récits. Et peut-être qu'on peut se dire qu'autour du feu sont nés les grands récits de notre humanité, les traditions orales, le partage de... Je crois qu'il y a une étude qui a été faite ethnologique qui montre que pendant la journée, sur les groupes de nomades, on parle pas des mêmes choses que la nuit autour d'un feu. Donc c'est des moments privilégiés sûrement. Donc ça, encore une fois, on ne peut pas en avoir de traces archéologiques.
Bien sûr. Mais... on ne peut pas avoir de traces archéologiques. Et puis, toutes ces traces archéologiques sont difficiles à interpréter. Je l'entends depuis le début, par exemple, si on revient sur les ossements. Ces ossements brûlés, ont-ils été brûlés pour produire une flamme parce qu'il y avait de la graisse? Ou bien, est-ce que ces ossements-là sont le reste d'un repas, tout simplement, et qu'on a brûlé la viande qui était dessus?
Oui, c'est une question qu'on se pose souvent. Parce que quand on retrouve des restes osseux brûlés, ils ont différentes couleurs déjà. Ils peuvent être noirs, carbonisés, mais ils peuvent être aussi blancs, calcinés, voire même turquoise. C'est étonnant, c'est la dernière couleur en fait, d'un os qui cuit longtemps. Ça devient turquoise, donc on pourrait presque croire que c'est un bout de plastique. Mais non, c'est bien de l'os, et des fois on peut se faire surprendre. Mais effectivement, tous ces ossements, on ne sait pas s'ils ont été juste jetés dans le feu pour assainir l'habitat, ou alors, par exemple, pour entretenir, comme on disait, ou même avec la graisse, raviver un petit moment le feu qu'on a devant nous. Donc c'est une question qu'on se pose, nous, archéozoologues.
Oui, peut-être pour compléter, alors ce qu'on peut dire, c'est que si on trouve dans un foyer uniquement des extrémités spongieuses, on peut penser qu'ils l'ont utilisé comme combustible. En revanche, si on trouve des éléments d'os long qui contiennent pas de graisse, on pense plutôt qu'il s'agit de poubelles. Et ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans les sites du paléolithique moyen, principalement des os longs, ou bien un mélange d'un peu tout dont on pense que c'est plutôt la poubelle. Alors qu'à l'Aurignacien, il y a énormément de sites. Donc autour de 40 000, énormément de sites avec
de l'os spongieux. Ouais. Il y en a quelques-uns comme l'Abri du Maras dans la vallée du Rhône où on a des petits os spongieux très noircis et beaucoup. Donc là, la question se posait aussi du combustible.
Ouais.
Et parfois aussi, on a des traces sur les extrémités des os longs, comme imaginez un rôti. Et là, ce seraient des traces qui pourraient nous faire penser déjà à des pratiques culinaires comme le rôtissage, par exemple. Mais c'est pas facile. Par exemple, si on fait un bouillon, si on boue la viande, là, pour les traces, le bouilli laisse moins de témoignages que le rôti.
Ah oui, donc, c'est compliqué. Ouais.
C'est compliqué pour les pratiques culinaires à la préhistoire, c'est pas facile.
C'est des pratiques culinaires difficiles à identifier malgré tout. Et nous évoquions ces grands mythes. Et parmi ces grandes réflexions, il y a cette séparation majeure entre le cuit et le cru.
La pensée mythique résonne, elle, sur des catégories concrètes et sur des catégories qui sont directement tirées de l'expérience. Or, pour l'homme, et plus particulièrement dans les mythes dont je m'occupe, il n'y a pas de catégorie plus fondamentale que celle de cru et de cuit, puisque c'est avec la cuisson des aliments, racontent les mythes, que s'opère le passage de la nature à la culture, de ce que, même pour des sauvages, est conçu comme étant la sauvagerie, à ce qu'ils entendent par civilisation.
Claude Lévi-Strauss, qui s'exprimait sur France Culture, nous étions en 1964, la cuisson comme passage de la nature à la culture, avec énormément d'hypothèses. Comment ça se passe sur ces chantiers, quand vous les étudiez le soir, vous vous retrouvez au coin du feu, et puis ça discute, vous vous projetez sur ces hypothèses, parce que entre l'étude, entre la découverte, au sens où il y a l'analyse scientifique qui donne des éléments, et puis tout le probable, j'imagine qu'il y a énormément de discussions entre vous.
Oui, oui, oui. Bah alors, de toute façon, l'objet archéologique, c'est un objet qui s'étudie depuis le terrain jusqu'au laboratoire. Donc, il y a toute une chaîne comme ça. Et c'est vrai que pendant la fouille, il y a souvent beaucoup, beaucoup de discussions, d'échanges entre les préhistoriens et même les étudiants, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants sur le terrain qui posent énormément de questions.
Avec cette difficulté déjà de trouver s'il y a une trace noire, s'il s'agit de feu, d'un reste, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, ça peut être un incendie qui est passé par là, et l'humain n'a rien à voir avec cette affaire.
Tout à fait. Ça existe aussi, hein, des niveaux complètement incendiés, un niveau archéologique. Alors là, en général, bah, tout est brûlé. Donc on sait que c'est un incendie. C'est souvent aussi un peu par déduction qu'on peut identifier la présence de feu, enfin en tout cas son utilisation.
Et dans les recherches que vous avez pu faire, c'est vrai, cette difficulté-là, c'est l'enjeu à chaque fois, et c'est ça qui est passionnant. D'ailleurs, la difficulté, c'est quelque chose de passionnant, j'imagine, sur le chantier de fouille.
Oui, oui, tout à fait. Et moi, je voudrais juste revenir sur ce que disait Lévi-Strauss à l'instant. C'est le cru, le cuit, mais aussi le pourri. Par exemple, on peut très bien se passer, encore une fois, hein, pendant toute l'évolution, enfin une grande partie de l'évolution humaine, on n'avait pas accès à la cuisson des aliments. Donc les groupes humains savaient très bien cuisiner finalement le cru. Et ils pouvaient le cuisiner, on le connaît aujourd'hui, hein, les sushis, le tartare. Mais on peut rendre plus digeste une viande crue, par exemple, avec la fermentation. Avec l'acération, le séchage. Donc il y a des techniques non thermiques qui permettent quand même d'avoir accès à une meilleure digestibilité, une meilleure mastication. Parce que le temps de mastication, on peut imaginer que la cuisson a favorisé ce temps de mastication. Mais il y a plein d'autres techniques en fait qui permettent de bien manger le cru. Oui. Et c'est vrai que la nature culture, le cru peut être aussi... cultiver.
Oui, non, mais c'est important de le dire parce que cette séparation crue et cuit, elle est majeure parce qu'elle fait partie de l'histoire même de la pensée avec Lévi-Strauss. Mais il y a cette idée aussi que le cru n'était jamais mangé, enfin, pouvait être mangé cru, mais c'était pas une obligation de le manger cru. Séchage au soleil, oui, ça c'est pas rien.
Fermentation. C'est pour ça que je parlais du pourri.
Mais ça veut
le
dire
cru,
que.
Le cuit et le pourri, c'était le triangle culinaire de Lévi-Strauss. Ouais. Et donc il y a cette partie-là. Le pemmican, je sais pas si vous connaissez, c'est ce que font les Inuits. C'est une viande séchée, en fait, crue, et qui, avec la graisse, ça c'est très important, la graisse animale, pour pouvoir mieux digérer justement. Et ça peut rester, ça peut se conserver vraiment très longtemps, en fait, comme ça, de cette manière-là. La fermentation permet la prédigestion, en fait, de la viande avant de la. Voilà. Alors bien sûr, le fait de cuire de la viande, ça permet de tuer les parasites, les bactéries. Ça assainit. Mais il y a d'autres techniques, en tout cas non thermiques, qui permettent quand même de manger cette viande qu'on a mangée pendant des millions d'années sans la cuire.
Et ce qui oblige aussi à regarder les travaux d'ethnologues, d'anthropologues et ce qui se passe aujourd'hui. Pour le feu, c'est pareil. Hein, c'est
oui, absolument. Alors, ce qui est très intéressant, justement, quand on s'intéresse à l'ethnologie, c'est qu'il y a presque autant de traditions qui sont liées au feu que de sociétés traditionnelles. On constate vraiment la diversité des pratiques, hein, autour du feu. Et même, on a des exemples de sociétés traditionnelles, d'une même société qui vit, par exemple, au Vanuatu, dans deux îles distinctes, qui vont chacun choisir... ils ont les mêmes espèces à disposition et chacun a son idée du meilleur combustible. Donc c'est la même société, c'est le même groupe humain, les mêmes espèces à disposition, exposition et chacun a défini que tel bois était un très bon combustible alors que tel autre non, et le groupe juste à côté dit exactement l'inverse. Donc l'ethnologie, c'est très intéressant parce que ça nous ouvre les yeux et ça nous permet de réfléchir à des situations qui sont pas les nôtres, parce que nous, préhistoriens, l'écueil dans lequel il faut éviter de tomber, c'est de faire un transfert entre ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'a pu être la vie des sociétés paléolithiques. Et vous voyez, quand vous nous demandez quels étaient les usages du feu, tout de suite, nous, on pense au chauffage, à la lumière, enfin, à tout ce qui est notre quotidien à nous. Mais on ne sait pas, en fait, quelle était la priorité pour ces sociétés. Et donc, ce que nous enseigne l'ethnologie, c'est d'abord qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas, bien sûr, et surtout qu'il faut éviter de faire des transferts directs, que l'ethnologie, c'est des éléments de compréhension, d'élargissement, d'ouverture d'esprit, mais absolument pas qui permettent de déterminer ce qui s'est passé pendant la préhistoire.
C'est vrai que c'est très très difficile à cerner comme ça l'utilisation d'éléments qui laissent si peu de traces. La fumée, par exemple, c'est très dur de savoir quelle utilisation pouvait être faite de la fumée, si ce n'est fumer les aliments. Mais ça chasse les insectes aussi, la fumée.
Alors, quand même, il faut rétablir un petit peu de science, au sens où il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, mais il y a beaucoup de choses qu'on sait. Hein, les techniques aujourd'hui, les méthodes de la chimie, de la physique, de la botanique, de la zoologie, permettent quand même de dire beaucoup de choses. On sait dire, par exemple, si du feu, on a fait du feu dans un site. Ça, on sait quasiment le dire, même s'il n'y a pas de traces avérées au sol, parce que il y a des méthodes des méthodes magnétiques, des méthodes physiques qui permettent de voir que le sol a été chauffé à certains endroits. On peut aussi faire des analyses chimiques qui permettent de montrer que certaines molécules ont été transformées thermiquement, animales, végétales, et donc on sait qu'il y a eu du feu même s'il n'y a pas de traces. On sait lire aussi des traces de suie sur les parois des grottes, voir la chronologie des traces de suie. Donc il y a quand même beaucoup de choses qu'on sait dire.
Et c'est ça qui nous passionne, et c'est pour ça que l'archéologie nous enflamme.
You've been so blind.
Élisie Mercier dans le cours de l'histoire, Fire. Le cours de l'histoire, une émission réalisée par Thomas Beau, préparée par Max James, avec aujourd'hui la technique Noé Chaban. Et aujourd'hui, nous cuisons du mammouth, puisque nous réfléchissons à la domestication du feu. Ça, c'est une chose, mais surtout à l'entretien du feu, à la signification du feu avec, je l'ai évoqué en ouverture de cette émission, l'ouvrage majeur au début du XXe siècle, La guerre du feu, devenu film dans les années 1980, avec l'idée, et le livre est super intéressant, hein, qu'il y a d'un côté une tribu qui déplace le feu parce qu'elle a réussi à choper un jour le feu, il faut surtout l'entretenir, et puis de l'autre côté, une autre qui arrive à faire le feu. Tout ça, c'est bien difficile à percevoir, on le sait bien. Est-ce qu'il y a des sites évidents ou des sites extrêmement éclairants que vous avez pu fouiller l'une et l'autre en vous disant « Ah oui, là, on arrive à lire nettement le foyer, ici. Éventuellement, j'ai trouvé mon silex et mon petit bout de minerai qui m'a servi à faire l'étincelle, j'ai mon briquet. »
Oui, alors je peux parler d'un site qui se trouve dans le Luberon, qui s'appelle La Combette, qui a été fouillé par Pierre-Jean Texier, qui est daté autour de 70 000, donc paléolithique moyen. Et donc c'est néandertal. Hein. Et dans ce site, il y a beaucoup de foyers, des foyers qui sont très beaux, très structurés, avec des pierres autour. Et j'ai fait l'analyse des charbons de bois qu'on trouvait dans ces foyers. Et ils présentent une caractéristique, c'est qu'ils proviennent de bois très altérés, qui était très altéré au moment où il a été mis au feu. Et le bois, quand il est très altéré, donc c'est du bois mort qui est pourri en fait, il a une caractéristique, c'est qu'il produit pas beaucoup de flammes, mais il fait beaucoup de fumée. Et alors, en discutant avec mes collègues tracéologues et archéozoologues, eux, ils avaient des indices d'utilisation sur les silex, de raclage des peaux. Et donc, en fait, une hypothèse, c'est qu'ils ont utilisé, que ces foyers étaient destinés au traitement thermique de la peau pour l'assainir, en fait.
Ils fumaient la peau pour
enlever les parasites et pour l'assouplir et pour pouvoir la travailler.
Ah, c'est très éclairant, ça, de réussir à mettre en relation le feu et l'utilisation qui peut en être faite avec d'autres éléments, en fait, autour sur le même site.
Voilà, en général, c'est un faisceau d'éléments qui sont parfois divergents, parfois convergents et qui permettent de proposer des hypothèses sur les usages. Alors après, il y a des exemples un peu majeurs, celui dont j'ai déjà parlé, hein, la grotte Chauvet qui est la plus ancienne grotte ornée en France et qui se trouve en Ardèche, qui a été occupée par des Aurignaciens. Et dans cette grotte, les traces de feu, elles sont partout. Il y a des foyers au sol, il y a des immenses amas de charbon de bois. Et donc, Et ces magnifiques peintures qu'on connaît tous, hein, les félins, les mammouths qui ont été réalisés avec ces charbons de bois. Et là, on travaille avec les pariétalistes, enfin les gens qui étudient les parois et les fresques, pour essayer de définir quelles étaient les techniques utilisées, comment on fabriquait ce charbon de bois. Est-ce qu'il y avait des techniques particulières pour qu'il puisse être utilisé pour faire du dessin? On sait par exemple que si le charbon est trop dur, on va réussir à produire un trait très fin, mais on va pas pouvoir faire de l'estompe. Donc il y a toute une gamme d'utilisation des charbons de bois qui permet de travailler comme ça la matière pour faire des peintures qui sont très impressionnante en fait, hein, et un niveau de technicité très important.
Le site du Luberon dont vous parliez, c'est 70 000 ans. Voilà. La grotte Chauvet, c'est 35 000 ans.
C'est ça.
C'est pour montrer aussi ces grands écarts avec cette idée-là qu'il y a des pratiques qui durent très longtemps. Cette notion de révolution du feu est à nuancer énormément. La domestication du feu, c'est pas un claquement de doigts soudain qui change l'humanité. Pas comme ça qu'il faut le concevoir.
Non, c'est un développement assez arythmique, en fait, hein, dans l'évolution. Maintenant, on l'a vu tout à l'heure, on parlait de plus d'un million d'années pour des sites où le feu a très certainement été récupéré dans la nature, en Afrique, au Proche-Orient aussi. On connaît un site quand même au Proche-Orient, autour de 800 000,
ouais.
Gesher Benot Yaakov, où on a vraiment des témoignages déjà de la maîtrise du feu. C'est un des plus anciens pour la domestication. Mais après, en Europe, c'est seulement autour de 400-300 000, et c'est vrai que c'est par bribes, enfin, puis en plus, la densité humaine n'est pas énorme, les sites sont pas... On en a très peu, donc effectivement, on peut pas penser que c'est quelque chose qui s'est fait dans... Et encore une fois, aux mêmes époques, aux mêmes périodes, on a des sites où on en a, et des sites où on en a pas. Donc... Cette dichotomie, enfin cette différence, elle est difficilement explicable, pas par la maîtrise, très certainement. Plutôt par des choix, plutôt par des traditions, plutôt par des fonctions. Le rapport coût et bénéfice aussi énergétique de faire un feu, il faut quelque chose. Il faut aller chercher le bois, il faut s'en occuper, il faut l'entretenir. Parfois, peut-être qu'on pouvait s'en passer.
Oui, parce que couper un arbre, c'est pas rien.
Non. Et peut-être pour rebondir sur l'hypothèse d'une utilisation d'ossements à la place de bois pendant les périodes où il faisait froid. Alors, c'est une hypothèse qui est souvent avancée, mais en fait, il faut quand même penser qu'il n'y a pas plus d'os que de bois dans l'environnement. Ou bien, ça supposerait d'aller chasser pour se chauffer, ce qui est aussi quelque chose qui n'est pas tout à fait raisonnable d'envisager. Donc, penser qu'on a pu utiliser des os comme combustible principal de manière durable, ça, c'est très probablement quelque chose qui ne s'est jamais produit.
C'était plutôt de l'écologie durable. En fait. On utilise tout, les animaux, et on va utiliser aussi les os.
Non, puis je l'ai très bien vu tout à l'heure quand vous avez évoqué l'idée de poubelle, être autour du feu, manger. Si on a quelque chose à acheter, on le jette dans le feu, c'est formidable. On s'en débarrasse et ça alimente le feu dans le même temps. Avec, pour expliquer ces variations, il y a peut-être également l'avancée de la science archéologique selon les territoires étudiés, très étudiés en Europe, en Afrique, à certains endroits. Et ça explique aussi peut-être la difficulté de comparer sur l'ensemble de notre planète.
Oui, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de continuum, hein, et il y a cette asynchronie, cette disjonction géographique, des occurrences, enfin des traces de feu sur le territoire qui sont évidemment liées à la tradition de la recherche, et il y a encore des secteurs qui sont largement inexplorés et dans lesquels on pourrait encore trouver des traces de feu, mais il y a aussi plein de régions dans lesquelles on trouvera jamais rien parce que les sols ont été ravinés, les glaciations ont tout écrasé. Enfin, oui. Voilà, donc il y a des choses qui sont perdues à jamais. Ça, on le sait en tant qu'archéologue.
Oui, il y a une question de préservation. C'est vrai que des fois, quand on n'en a pas, c'est qu'il n'est pas préservé. Un feu éphémère peut ne pas laisser de traces du tout. Et par exemple, c'est avec Néandertal en Europe, mais si on regarde le Maghreb, au Maroc, c'est avec Sapiens, avec Jebel Irhoud, par exemple, autour de 300 000 ans, qu'on va avoir dans le même site à la fois les restes humains qui sont parmi les plus anciens hommes modernes, homo sapiens, archaïques, et aussi des témoignages de feu. Et toujours au Maroc, un peu plus anciennement, à peu près vers 1 million d'années, bah encore une fois, on n'a aucune trace de feu. Donc c'est vrai que selon les endroits de la Terre, ce n'est pas les mêmes humanités, les mêmes groupes humains qui vont faire le feu.
Mais c'est pas les mêmes groupes humains qui font le feu, sachant qu'à l'intérieur d'un même groupe humain, il y a déjà des variations. Un peu comme vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui encore, à deux îles d'écart, on ne procède pas de la même manière. Tout comme aujourd'hui encore, dans deux jardins d'une cité pavillonnaire, on fait pas le barbecue de la même manière, ce qui vaut des débats absolument sans fin. Mais c'est ça aussi, cette histoire du feu, c'est de réussir à avoir une cartographie de ce qui se passe, sachant qu'elle est impossible, et surtout d'avancer par la compréhension et par la science. C'est 2 mm de charbon, Isabelle Théry-Parisot, que vous évoquiez.
Oui.
C'est vrai que ça fait réfléchir, mais cette histoire-là, et on l'a dit pendant longtemps, dès qu'il y avait un peu de noir, on s'intéressait moins à ce que c'était, mais parce qu'il n'y avait absolument pas les moyens de l'étudier non plus. Maintenant, il y a les moyens. Donc, on s'intéresse beaucoup plus à ces petits détails qui nous en disent beaucoup.
Alors, ça fait quand même plus de 70 ans hein, qu'on peut étudier les charbons de bois en microscopie, et en tout cas qu'il y a des études qui sont faites au microscope. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ce qui a prévalu quand on fouillait, c'était de ramasser des gros fragments, et puis de temps en temps comme ça. Maintenant, il y a une façon de manière systématique de ramasser, de prélever les charbons de bois. En fait, on tamise tout le sol, on le passe à un tamis de 2 mm ou 1 mm, tout le sédiment fouillé, et ce qui permet de ramasser énormément de charbon de bois. Voilà.
Voilà, et donc on trouve ça, on dit, bah tiens, là j'ai un peu de noir, ce sera pour Isabelle Théry-Parisot.
Exactement.
On lui envoie, elle saura quoi en faire avec toute cette réflexion sur l'histoire du feu et notamment les espèces d'arbres utilisées.
En travaillant, je suis tombé sur des aires de rubéfaction qui datent de l'interglaciaire Mindelris, c'est-à-dire d'environ 400 000 ans. Alors, ces traces de feu sont très importantes. L'argile rubéfiée est épaisse d'environ 5 à 10 cm, ce qui suppose que les Homo erectus ou pithécanthropes ont séjourné très longtemps sur ce site ou qu'ils ont fait des feux très violents.
Mais quelle sorte de feu peut-on rêver un peu sur, avec tout ce qu'on sait de ce fameux roman, La guerre du feu, est-ce qu'on peut rêver un peu?
Pour savoir le type de feu, évidemment, il faut déjà que les déterminations des espèces soient faites. En effet, on recueille les charbons de bois et le spécialiste sera capable de dire quelle espèce d'arbre a été brûlée, si c'est du chêne, du bouleau ou d'un autre arbre. C'est tout ce que l'on peut dire. D'autre part, il me semble que ces feux sont faits en dehors des petites huttes qu'ils habitaient, car comme les aires de rubéfaction font environ 1 mètre de large, 10 cm d'épaisseur, ce sont des feux très très puissants.
Nous étions en 1981 quand s'exprimait le préhistorien André Thévenin à propos de traces de feu en Alsace. Ici, nous étions en Alsace. Mais c'est ça aussi, hein. Nous le disions, énormément de comparaisons avec les chantiers de fouilles actuels, avec ce qui s'est passé. C'est aussi une manière de relire les chantiers de fouilles anciens à l'aune de ce que l'on sait aujourd'hui de cette histoire du feu.
Ah oui, alors d'ailleurs, quand on fouille un site, on évite de le fouiller entièrement parce qu'on sait que les méthodes évoluent beaucoup. Et donc, on laisse toujours une part du gâteau pour les générations futures. Mais quand André Thévenin dit on peut dire c'était du chêne ou du pin, et c'est tout ce qu'on peut dire, quand même, il exagère un peu parce qu'on peut dire beaucoup. Une fois qu'on a identifié l'espèce, on peut quand même proposer beaucoup d'hypothèses sur les usages du bois, mais aussi sur l'environnement, parce que c'est important de relier aussi la présence de feu avec les grandes périodes de glaciation, de réchauffement climatique, qui permettent aussi de montrer qu'il n'y a pas vraiment de rapport, contrairement à ce qu'on pourrait intuitivement, entre les périodes de grand froid et la présence de feu, par exemple.
Avec, à partir du feu, la possibilité de regarder l'ensemble de cet environnement, hein, qu'il soit végétal, qu'il soit animal. C'est formidable, le feu, en fait. À partir de juste ces traces noires et puis tout ce qui est associé, on réfléchit à l'ensemble de tout ce qu'on évoque de l'environnement et même de la société. On l'a dit, il y a les mythes, il y a la manière de se comporter autour du feu. Là, on a un élément important et moteur de ces sociétés qu'il est difficile de saisir.
Oui. On a aussi dans le tamisage, effectivement, les petits charbons, puis les tout petits bouts d'os. Effectivement, tout se mélange et tout va dans, voilà, pour savoir si on a des foyers. Il y a deux sites assez célèbres en France qu'on n'a pas cités pour la domestication du feu. C'est un site en Bretagne, dans le Finistère, Ménez-Drégan, autour de 350 000, c'est ça, Isabelle?
Ouais,
350 000. Et puis un site plus près de chez toi, vers Nice.
Terra Amata.
Mm-hmm. Ouais. Alors, des traces anciennes de feu.
Ouais. Peut-être, si on veut parler de domestication, peut-être préciser ce qu'on entend par domestication, parce que le fait d'avoir utilisé le feu ne nous dit pas s'il était domestiqué, si les hommes en maîtrisaient son usage. Je pense qu'on peut parler de domestication à partir du moment où de manière avérée, une façon de gérer le feu, d'utiliser le feu pour différentes activités, à partir du moment où il a un espace social dans la grotte, et où on voit par exemple l'apparition de fabrication de colle, d'adhésifs, de traitement des ocres, enfin tout ce qui est lié de traitement des peaux, de fabrication d'objets traité thermiquement.
Oui.
Et voilà, donc là je pense que la domestication, vraiment, en tout cas en Europe, à mon sens, on peut vraiment parler à partir de 70-80 000 ans, mais avant, des traces, on en a peu.
Voilà, c'est ça. Donc les 400, 300 000 ans, c'est une très belle borne.
Voilà.
Un contexte particulier, mais que faut longtemps de temps avant qu'il y ait l'utilisation. Là, l'importance.
Maîtrisée, on va dire.
Ouais, la vraie maîtrise.
On sent que, voilà, qu'il maîtrisait tous les aspects.
Mais il faut pas seulement il faut l'entretenir, mais il faut aussi le contenir. Et je fais un petit clin d'œil peut-être au roman de Pourquoi j'ai mangé mon père. Parce qu'il y en a, il y en a un qui a toujours très peur, c'est l'oncle, et il a peur de se faire le feu. Ça peut devenir un feu de brousse et ça peut être très dangereux. Donc il faut pouvoir aussi le maîtriser dans le sens où le contenir. Et je pense que ça, c'est important aussi dans le passé. Ça a dû faire peur aussi.
Oui, c'est ça. Hein. Sait, hein. Et oui, le feu, ça fait peur. C'est dangereux, le feu.
Voilà,
ça brûle.
Ça brûle.
Ouais, pour le rappeler.
C'est pas que bon.
Ben, en tout cas, merci vivement à toutes les deux d'avoir réchauffé nos connaissances sur la domestication du feu. Mais j'ai bien retenu ce que vous avez dit. Hein. C'est pas tout d'avoir du feu et de le maîtriser, de l'utiliser. Il faut du temps. Et puis, il y a tant de variations, mais c'est passionnant. Merci beaucoup, Isabelle Théry Parizeau. Merci beaucoup, Camille Dojard. Il est temps pour nous de retrouver Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment.
Comment les tragédies grecques nous racontent-elles l'histoire ? Les historiens de l'Antiquité ont parfois cherché dans les tragédies grecques des renseignements sur les réalités de ce passé lointain. La difficulté tient au fait que les tragédies qui empruntent leur sujet à l'histoire sont rares, de même que les allusions explicites au contexte dans lequel vivaient les Athéniens. Parmi les exemples souvent cités, il y a celui de la peste, qui occupe une grande ampleur au début d'Œdipe roi, l'une des plus fameuses tragédies de Sophocle. Un lien a ainsi été établi avec l'épidémie de peste qui s'était abattue sur Athènes au début de la guerre du Péloponnèse. Mais ce genre de rapprochement est très hasardeux, car le plus souvent, on ne connaît pas la date exacte de ces œuvres. Un autre rapport à l'histoire a été tenté par ceux qui ont voulu retrouver des personnages historiques sous le masque des héros tragiques. Philoctète, le héros d'une autre tragédie de Sophocle, a été comparé à Alcibiade, l'une des personnalités politiques les plus importantes du monde grec au 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais une telle assimilation a été le plus souvent rejetée, car les différences entre le personnage de la tragédie et le général athénien sont au moins aussi évidentes que leur ressemblance. Sans nier qu'on puisse établir un lien entre les thèmes traités dans ces tragédies et la réalité de l'époque, les études les plus récentes, citées en référence sur notre site, tendent plutôt à voir dans le héros tragique l'incarnation d'un type de personnage. Dans le Philoctète, par exemple, Ulysse serait l'incarnation des orateurs contemporains et d'une classe politique dominée par l'individualisme, l'utilitarisme et le cynisme. Dans le Prométhée enchaîné, une tragédie grecque traditionnellement attribuée à Eschyle, Zeus est décrit comme le type même du tyran. On revient ainsi à la perspective que l'historien Jean-Pierre Vernant avait esquissée dans son célèbre ouvrage intitulé « Mythes et pensées chez les Grecs », initialement paru en 1965. Vernant définit le genre tragique par un écart. D'un côté, dit-il, la tragédie prend ses distances par rapport au mythe des héros dont elle s'inspire et qu'elle transpose très librement. Elle les met en question. Elle confronte les valeurs héroïques, les représentations religieuses anciennes, avec les modes de pensée nouveaux qui marquent l'avènement du droit dans le cadre de la cité. Mais d'un autre côté, la tragédie grecque prend aussi ses distances par rapport aux réalités historiques de son temps, car loin de les refléter, elle les met en question. L'importance du mythe dans la pensée grecque tient donc au fait qu'il ne permettait pas seulement l'éloignement dans le temps. Il pouvait aussi déplacer les questions que se posaient alors les Athéniens. Voilà pourquoi, en favorisant l'expression d'une double distance, la tragédie grecque donnait aux spectateurs qui venaient l'admirer la possibilité d'aborder des problèmes contemporains sans provoquer des répercussions politiques immédiates et des réactions violentes. Sur le plan social, ce type de théâtre fonctionnait aussi comme un espace public où pouvaient se négocier les compromis entre les intérêts de l'élite et ceux du peuple.
Merci beaucoup Gérard Noiriel, c'était le cours de l'histoire sur France Culture. Une émission préparée tout feu, tout flamme par Jeanne Delecroix, Antoine Biodès, Jeanne Copet, Lily Cornaer, Tom Umdenstock, Mathieu Copal et Maïwenn Guizhou. Merci à l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les archives. Le cours de l'histoire est à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr, notre site où vous retrouvez toutes les informations sur le thème du jour et la bibliographie. Et évidemment, le cours de l'histoire est sur l'application Radio France.